place, donc tarte à faire, et nous sommes on va attendre une ou deux minutes, quand il y a des participants qui sont encore en pouvoir.
Paris, c'est une grande ville, comme la plupart des grandes villes, c'est un terrain de prédilection pour la chasse que peuvent entreprendre un certain nombre de mouvements sectaires, parce que, comme dans toute grande ville, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, la solitude, l'isolement qui peuvent exister, une sorte finalement d'anonymat, vivre dans des quartiers sans vraiment rencontrer véritablement personne. Et pour des personnes fragiles, pour des personnes qui sont à certains moments de leur vie en situation de détresse, ou pour les jeunes tout simplement, qui se construisent, qui cherchent, qui vont essayer d'emprunter plusieurs voies, eh bien Paris peut être une ville particulièrement dangereuse. En tous les cas, c'est un terrain de chasse pour un certain nombre de mouvements. Les mouvements sectaires les plus connus et puis d'autres qui naissent, qui essayent de proliférer. Bien souvent, ça a dû être dit à travers des arnaques parce que derrière, il y a souvent quand même une motivation financière. Alors, à partir du conseil que nous avons fait, on a eu un débat en Conseil de Paris, un débat qu'on a voulu, à l'image de ce que vous faites à l'Assemblée nationale, un débat républicain, dans lequel il n'y a pas place pour de l'affrontement partisan, parce que nous considérons que lutter contre les mouvements sectaires, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas l'affaire d'un parti en particulier, c'est l'affaire de ceux et celles qui croient au pacte républicain, aux valeurs de la République, et que voilà, ça n'a pas de propriété, c'est l'ensemble des formations politiques républicaines qui s'y retrouvent. Et donc nous avons eu un débat au Conseil de Paris, assez rapidement, en début de mandature, et à partir de là, nous nous sommes interrogés sur le cadre de notre action municipale. Bien sûr, une bonne partie de l'action relève et doit relever de l'État, parce que c'est là qu'un certain nombre de règles, de taxes, de moyens, notamment pour l'aide aux victimes, doivent être donnés. Mais le niveau de la ville, et Paris est en plus un département, donc on a cette double compétence qui nous a permis de réfléchir au cadre approprié, nous avons hésité entre deux formules, une formule d'observatoire ou une formule de comité de vigilance, de pilotage. Et nous avons choisi la deuxième formule qui nous paraissait plus adaptée. Et donc, nous avons entrepris de réunir au niveau municipal, avec des représentants de tous les groupes politiques qui siègent au Conseil de Paris, nous avons réuni l'administration parisienne, c'est-à-dire les grandes directions qui sont les plus confrontées potentiellement à la question des mouvements sectaires. Ça va bien sûr de la direction des affaires scolaires, la direction de l'aide sociale des enfants, la direction de la famille, direction de la formation professionnelle au sein de la direction des ressources humaines. Bref, on a réuni, et bien sûr la direction des affaires juridiques, etc., l'ensemble des directions sous la houlette de notre secrétaire général qui a une vocation transversale pour impulser les actions au niveau de la municipalité parisienne. Et puis nous avons souhaité élargir ce cercle aux élus, bien sûr, et aussi aux administrations de l'État, puisqu'il existe bien sûr des comités départementaux auxquels la ville de Paris est là animée par les représentants de l'État. Mais au sein de ce comité parisien, animé au sein de la ville, nous avons souhaité inviter les représentants de l'État et la préfecture de police, les renseignements généraux, mais aussi le rectorat, participent avec nous à un travail qui nous permet non seulement de faire le point de nos informations sur l'état d'avancement des mouvements sectaires à la ville, mais aussi de dégager un certain nombre d'actions. Nous avons proposé aux associations qui travaillent pour l'essentiel sur la question de l'aide aux victimes et sur la prévention de nous rejoindre dans ce comité de pilotage. Donc on a l'administration, les forces politiques, les forces associatives qui, ensemble, travaillent et se réunissent régulièrement. Le maire de Paris m'a chargé d'animer cette structure et nous avons eu le plaisir d'accueillir à la dernière réunion le préfet Roulet, qui nous a fortement rassurés sur la volonté de l'État de continuer de poursuivre cette lutte contre les mouvements sectaires. Alors, qu'avons-nous mis en place comme action concrète? Eh bien, dans le cadre de nos compétences municipales, nous sommes d'abord attachés à former et informer les fonctionnaires de la ville qui, pour l'essentiel, peuvent rencontrer dans leur action des mouvements sectaires, et nous savons que les mouvements sectaires avancent rarement à découvert. On en trouve un certain nombre qui essayent d'œuvrer notamment dans le soutien scolaire, dans tout ce qui concerne les activités périscolaires des enfants, dans le domaine de la toute petite enfance. Et donc, il nous a semblé nécessaire de proposer des formations aux fonctionnaires de la ville qui sont confrontés, qui peuvent être confrontés, pour qu'ils aient la vigilance, la connaissance, l'information, et que dans le cadre du droit existant, eh bien, ils soient quand même tout à fait prévenus des risques d'infiltration, d'entrisme d'un certain nombre de mouvements sectaires, pour qu'on puisse les déceler et les reconnaître. Donc une formation des fonctionnaires, d'ailleurs, qui a été commune au service de l'État. Hein. On a décidé de mettre en commun nos moyens et de former les fonctionnaires de la ville et les fonctionnaires de l'État. Et donc, aujourd'hui, il y a plus de 300 fonctionnaires de nos services qui ont déjà suivi ces formations. Nous avons décidé de nommer un référent secte et dérive sectaire au sein du secrétariat général. C'est-à-dire que nous avons une personne qui, au plus haut niveau de l'administration parisienne, recense toutes les informations, les signalements qui peuvent être faits sur tel ou tel mouvement, sur les problèmes. Les associations sont en rapport avec ce référent, et donc il y a, je dirais, une personne qui est plus particulièrement chargée au sein de l'administration parisienne d'assurer la coordination de toute l'information dont on dispose. Et puis nous avons mis en place un réseau de vigilance. C'est-à-dire, nous avons au niveau des mairies d'arrondissement et dans chaque direction des personnes qui sont des personnes ressources, qui ont suivi la formation qui a été proposée et qui connaissent l'évolution du mouvement sectaire, qui savent comment ils opèrent, où ils opèrent, et qui sont les personnes ressources dans l'administration parisienne. Et nous avons souhaité bien sûr décentraliser cela, puisque Paris, c'est aussi une commune composée de 20 mairies d'arrondissement et qu'il fallait faire en sorte d'être au plus près du terrain. Donc, ça c'est pour la mise en place, je dirais, des structures et des réseaux qui permettent de travailler ensemble, de comprendre les évolutions. Alors, on a eu, par rapport à la question de l'enfance et des adolescents, un travail plus poussé, notamment dans certaines directions. Je le disais tout à l'heure, notre direction, notamment de la jeunesse et des sports. Dans cette direction, nous avons fait un travail auprès des 300 établissements sportifs qui accueillent des enfants et des adolescents, et ils ont été concernés par cette formation, d'ailleurs dispensée par la Miviludes. Et c'est pour nous, c'était très important parce que nous savons aussi que c'est un point d'entrée possible, hein, tout ce qui a trait au sport et aux activités de loisirs des jeunes. Donc là, une formation spécifique pour les fonctionnaires dans ce domaine-là. Et puis, nous avons aussi fait cette formation spécifique dans le domaine de l'action sociale et de l'aide sociale à l'enfance. Puisque Paris est à la fois commune et département, eh bien nous avons la compétence départementale sur l'aide sociale à l'enfance. Et là, nous avons des fonctionnaires, des personnels qui sont des assistantes sociales, qui sont vraiment les personnels sociaux au contact du terrain, qui ont aussi été fortement mobilisés parce que, là encore, à travers les situations d'enfants provenant de familles en difficulté qui ont recours à l'aide sociale de l'enfance et l'enfance en danger aussi, nous avons des situations qui relèvent de situations de mise en danger parce que des parents appartenant à des mouvements sectaires ont essayé d'entraîner leurs enfants, en tout cas de faire de leurs enfants aussi des agents de prosélytisme de décès. Donc ce travail travail-là se fait de façon très appuyée auprès des fonctionnaires dans ces secteurs bien déterminés. Et puis, dans, je dirais, les différents registres de mobilisation de la ville et de tous les réseaux qui se sont concernés par cette lutte contre les mouvements sectaires, nous avons décidé d'apporter un soutien, y compris financier, aux associations qui œuvrent sur le terrain. Nous avons notamment une association qui s'appelle Attention Enfants, qui a vu son origine notamment dans le 17e arrondissement et dans le 15e arrondissement de Paris, parce que dans ces deux arrondissements, nous étions et nous sommes toujours confrontés à une présence importante à la fois de la scientologie mais aussi de la nouvelle acropole, qui, les deux mouvements sectaires, se sont implantés à proximité de collèges et de lycées, et font vraiment énormément de diffusion, d'invitation à des conférences sur des thèmes qui peuvent intéresser les jeunes. Philosophie orientale, rechercher la plénitude, savoir construire sa vie, son bonheur, etc. Ce sont des thèmes qui, bien évidemment, pour un certain nombre de jeunes, d'ados ou même de pré-ados, peuvent être attractifs. Et finalement les faire rentrer sans qu'ils ne s'en rendent trop compte dans les rouages de ces mouvements sectaires. Donc nous avons un travail spécifique avec Attention Enfants qui travaille beaucoup auprès également des associations de parents d'élèves. Hein, et avec notamment cette association, mais aussi avec les autres associations, ADFI et bien sûr CCMM, nous travaillons pour essayer d'irriguer le réseau associatif au-delà du réseau associatif qui se sent directement concerné par la question des sexes. Ça veut dire les associations de parents d'élèves, mais aussi les associations de quartier, parce que dans les quartiers, il peut y avoir aussi des associations qui, tout d'un coup, se trouvent confrontées à la volonté d'implantation de tel ou tel mouvement sectaire. Là encore, ça arrive régulièrement quand on apprend que tel mouvement veut, par exemple, établir un siège, ouvrir un local à tel endroit. Il y a des mobilisations citoyennes assez spontanées qui se font. Et donc l'idée, c'est de nourrir cela, non pas de les provoquer, mais de nourrir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les habitants d'un quartier se sentent concernés, il faut aussi nourrir leur réflexion, apporter des éléments rationnels puissent vraiment aussi informer, communiquer sur les dangers des mouvements en question. Et puis, nous avons comme axe pour les mois qui viennent un sujet important, et là, c'est en lien avec le rectorat que nous allons opérer, et sous la responsabilité de mes deux collègues, Éric Ferrand, qui est chargé des affaires scolaires, et Clémentine Audin de la jeunesse. Nous avons décidé de mettre en place un partenariat avec le rectorat pour pouvoir, là aussi, à travers les établissements scolaires, pouvoir faire de l'information auprès des jeunes et avec l'appui, bien sûr, de la communauté scolaire. Pour l'instant, on n'a pas rencontré un très vif succès, malheureusement. Et au-delà des associations de parents d'élèves, qui sont très motivées et mobilisées, on a quand même un petit peu de mal. On a eu aujourd'hui, en gros, le proviseur du lycée Louis Le Grand, donc voilà, c'est très bien, c'est un très beau lycée, mais c'est quand même pas la population parisienne dans son ensemble. Donc nous essayons, avec le rectorat, de mobiliser vraiment les proviseurs, les principaux de collège et la communauté éducative pour qu'il puisse y avoir des rencontres, un travail d'information, de pédagogie auprès des jeunes. Et sur la mobilisation plus large, vous savez que Paris est donc soumis à une loi spécifique, comme Paris, Lyon et, Lyon et Marseille, et cette loi prévoit que dans chaque arrondissement existe ce que l'on appelle des CICA, des comités d'initiative de consultation d'arrondissement, qui sont des lieux où les associations d'un arrondissement donné viennent se déclarer et ont tout loisir d'organiser un travail en commission Et ce travail qui est fait par les associations se fait ensuite en lien avec les conseils d'arrondissement et trouve des débouchés à travers éventuellement les délibérations des conseils d'arrondissement. Nous avons proposé aux différents SICA des 20 mairies d'arrondissement qu'ils puissent se saisir aussi de cette question-là, qu'ils organisent à travers leur propre organisation et en invitant les élus, en invitant les responsables aussi administratifs hein, qui travaillent sur ces sujets, d'organiser des rencontres pour sensibiliser l'ensemble du tissu associatif à la question des sectes. C'est comme ça qu'il y a eu notamment une réunion d'un SICA du 15e arrondissement où M. Roulet a été invité. Et puis nous avions fait également ce type de réunion déjà dans le 18e, dans le 20e arrondissement, qui sont aussi des arrondissements dans lesquels il y a beaucoup de mouvements sectaires. Une mobilisation administrative, politique, associative, qui, je crois, aujourd'hui, dénote d'une vigilance de toutes et de tous, mais en même temps un certain désarroi, je ne vous le cache pas. D'abord, face à la prolifération des mouvements, dont on ne sait pas s'ils sont tous sectaires ou pas, mais enfin, il y a beaucoup de mouvements qui se créent, qui se transforment, et une inquiétude très grande de la population, inquiétude très très grande des parents, inquiétude des personnes qui, un jour ou l'autre, ont été confrontées à des situations où leurs familles, leurs enfants ont été soit approchés, soit ont failli entrer dans ces mouvements-là. Donc une inquiétude très grande, et c'est vrai, des moyens qui sont des moyens, voilà, hein, qui sont des moyens de la loi, mais qui sont quand même des moyens relativement limités. C'est vrai que lorsqu'on assiste à proximité des collèges et des lycées à la diffusion de tracts, d'affichettes sur des conférences dont on sait que derrière c'est la nouvelle Acropole ou tel autre mouvement sectaire qui en est à l'origine, et que on ne peut pas faire grand chose si ce n'est passer chez les commerçants en leur disant vous savez ce que vous avez affiché là, en fait c'est de la publicité pour une secte, travail que nous faisons hein, avec les élus, les associations, nous faisons ce travail-là, où lorsque nous voyons dans une rue des affichettes à poser sur les pare-brises des voitures, ben, nous les enlevons tous et nous signalons, parce que ça veut dire, nous signalons au commissariat, parce que ça veut dire qu'il y a eu quand même des personnes qui... Mais au-delà de ça, c'est difficile quand même, il y a un certain désarroi, ce que nous disent notamment des personnels enseignants ou des animateurs auprès des jeunes, ils nous disent « bon, c'est bien de faire toutes ces informations, mais quand en permanence les jeunes sont sollicités, et pas que les jeunes d'ailleurs, à la sortie des métros, à la sortie des lycées, des collèges, par ce type de publications et d'informations, c'est quand même difficile, on a l'impression parfois de vider l'océan à la petite cuillère. Mais pour autant, en tous les cas, c'est notre état d'esprit, nous ne le désarmons pas. Je crois que la meilleure des méthodes, c'est quand même la pédagogie, l'information régulière, l'organisation aussi, comme nous l'avons fait, de manifestations citoyennes devant les lieux où sont implantés les mouvements sectaires les plus connus et les plus jugés les plus dangereux. Donc nous organisons régulièrement des manifestations qui nous sont très bien devant la Scientologie, la Nouvelle Acropole ou autres lieux, parce que ça nous permet aussi d'expliquer autour de nous, aux riverains, aux parents, aux citoyens tout simplement, ce que sont ces lieux, ce qui s'y passe et les dangers que ça reflète. Donc il y a ce besoin de mobilisation citoyenne et républicaine pour, je crois, permettre à nos concitoyens d'être le plus éclairé possible, le plus averti possible, et qu'un modestement, nous essayons de contribuer à ça. Et nous sommes, en tant qu'élus parisiens, tout à fait preneurs des expériences qui peuvent se dérouler sur d'autres territoires, et en tous les cas de l'éclairage utile et extrêmement important de nos parlementaires qui vraiment travaillent constance sur le sujet. Je les en remercie à vous.
Bien. On va s'accorder un petit moment de discussion à partir de l'expérience parisienne et avant de passer la parole à la salle. Moi, j'ai juste une question que je voudrais comprendre. Vous avez parlé de mobilisation molle des proviseurs. Comment vous expliquez ça, surtout qu'on a quelqu'un, j'irai, qui est à la pointe du combat, hein, pour parler un peu comme lui ce matin, un inspecteur général qui est présent. À l'éducation nationale. Vous pouvez nous expliquer comment vous ressentez ça?
En fait, bon, moi, c'est peut-être un peu fort, hein, mais c'est vrai que je comprends que les proviseurs sont sollicités sur beaucoup de sujets et qu'ils doivent ouvrir, et je pense qu'il faut qu'ils ouvrent les portes des lycées et des collèges à beaucoup de sujets de société, tout ce qui concerne la prévention, la question des risques, des comportements à risque, que ce soit en matière de santé publique, de lutte contre le sida, de prévention, aujourd'hui, sur les questions de prévention du suicide des adolescents, prévention des drogues, bref, il y a des demandes très fortes qui sont faites aujourd'hui à la communauté scolaire pour qu'elle ouvre ses portes et qu'elle entende des professionnels, des gens de la société civile venir parler des risques qu'il y a en dehors des murs de l'école. Et je peux comprendre que parfois les proviseurs se disent on a aussi un programme qui est très chargé et on ne peut pas tout faire, et qu'il y ait aussi une volonté de bien faire, c'est-à-dire qu'on fasse les choses dans un cadre pédagogique. Donc je pense qu'il y a dans la prévention qu'on peut ressentir chez certains proviseurs, cette envie de bien faire et d'être dans un cadre qui correspond vraiment à l'action pédagogique, qui est celle qui doit se dérouler dans l'enceinte des murs des établissements scolaires. En même temps, je pense qu'il faut quand même aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, parce que surtout dans des territoires où les jeunes sont très tôt d'abord livrés à eux-mêmes, hein, parce que au collège, vous avez plein de gamins dans les collèges, compte tenu des horaires de leurs agendas, qui n'ont pas cours, par exemple, un après-midi entier, en dehors du mercredi, dont les parents travaillent. Paris est une ville où il n'y a que 12% de femmes au foyer, ce que je trouve très bien personnellement. Mais ça veut dire qu'il faut des structures autour pour permettre aux enfants de ne pas être livrés à eux-mêmes. Bon, donc dans un monde urbain dans lequel on peut se déplacer assez facilement, dans lequel tout est très mouvant, tout est très mobile, et en même temps c'est un terrain de chasse de prédilection pour des mouvements qui ont envie d'arnaquer, et notamment de s'attaquer en premier lieu aux plus vulnérables et aux jeunes, je pense que là, il faut quand même que les professeurs aillent plus loin. Donc c'est ce qu'on a entrepris de faire, comme on veut faire les choses bien aussi, c'est en prenant appui sur le rectorat. Et là, je pense qu'on va pouvoir développer. J'ai oublié de dire une chose, on veut d'ailleurs faire ce travail-là en allant d'abord dans nos quartiers qui sont en politique de la ville. On a 13 quartiers de Paris qui sont des quartiers politiques de la ville, alors plutôt dans le nord-est, sud-est de Paris et un peu dans le centre, 10e, 11e arrondissement ont des quartiers politiques de la ville. On sait que dans ces quartiers-là, il y a aussi une entrée d'un certain nombre de mouvements sectaires qui viennent sur fond de misère sociale, de détresse sociale, et qui essayent de s'infiltrer, de venir voir des enfants en proposant des cours de soutien, d'abord sans faire payer, puis après les choses se gâtent, mais en disant voilà, c'est bien pour votre avenir. Donc nous avons la volonté d'avancer dans les établissements scolaires, mais en partant aussi d'un ciblage peut-être dans un premier temps dans les quartiers politiques de la ville.
Je vous donne la parole, bien sûr.
Oui, ce que décrit Mme Hidalgo ne me surprend pas. Je vais vous faire une révélation, mais le temps ayant passé, maintenant c'est grave. En 1997, une étude a été entreprise au niveau national par le ministère pour essayer de quantifier le nombre d'enfants qui échappent à l'enseignement, à l'instruction obligatoire, et ceux qui sont liés à l'influence sectaire. Il y avait deux départements de France où nous n'arrivions pas à cerner les réalités, c'était la Guyane et Paris. Parce que Paris, anecdote, une secrétaire dévouée du rectorat a vu un jour un groupe d'enfants s'est amusé à les suivre, et c'est comme ça qu'une école clandestine a été découverte. C'est-à-dire que dans une ville de cette dimension, il est très difficile de contrôler. Donc il existe des écoles, enfin je ne sais pas, de nos jours les choses ont bien changé, un travail important a été réalisé, mais il y a encore quelques années, pouvaient fonctionner des écoles totalement clandestines dans la ville. En ce qui concerne les proviseurs, d'une part, Mme Hidalgo l'a dit, les chefs d'établissement sont confrontés à de multiples sollicitations. Comme quelque chose ne va pas dans un pays, on dit que c'est l'école qui ne fait pas son travail. Donc, l'autre jour, j'entendais quelqu'un sur une radio qui déplorait que dans le domaine boursier, il n'y ait pas une initiation à la bourse. Il faudrait qu'à l'école, on fasse tout. Bon, ceci étant dit, la lutte, la prévention des dérives sectaires fait, à ma connaissance, encore partie des priorités de l'éducation nationale. Et pas plus tard qu'hier, le ministère réunissait, c'est une structure que j'ai mise en place il y a quelques années, dans chaque rectorat, il y a un référent secte qui représente la cellule du ministère. Or, eh bien, hier soir, au ministère, on a parlé de Paris parce que ça ne fonctionne pas. Le rectorat a un référent sur le papier, mais ça ne va pas plus loin. Donc, une stimulation est faite en direction du rectorat, et je pense que les choses vont changer très rapidement, et donc que la politique que vous impulsez va pouvoir prendre corps.
Ma question va peut-être ressembler à une question qui. Je sais que le maire de Paris n'a pas de pouvoir de police en tant que tel. Vous avez un préfet de police, mais je pense néanmoins que les remarques qu'il pourrait faire devraient être écoutées d'une oreille attentive par la présentante du gouvernement l'espèce. En ce qui concerne l'église de Scientologie, il faut savoir que les gens qui envoient sur le terrain, dans les rues, sont munis de jolies autorisations de colporteurs délivrées par la préfecture de police de Paris. Moi, ça me pose un problème, parce que j'ai été agressé par ces personnages pour devoir gâcher un spot ou distribuer des tests de psychologie. Alors, j'avais fait de la contre-propagande, et à chaque fois qu'il distribuait un truc, je disais test de psycho de l'église de Scientologie. Le personnage a relativement mal réagi, j'ai fait me retrouver balancé au milieu de la circulation. Réaction violente, donc non seulement vous avez des scientologues, mais ils ne savent pas les choisir, donc ils envoient des psychopathes sur la voie publique. Psychopathes armés d'autorisation de colportage. Est-ce qu'à ce niveau-là, connaissant le passif de l'église de Scientologie, je rappelle, condamnation en justice, ville de Lyon, homicide involontaire, extorsion, escroquerie, Marseille, même schéma, est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau des services de la préfecture de police de la ville de Paris, ne pas donner d'autorisation de colportage à des mouvements qui sont connus sur le passif du criminel? Voilà ma question.
Le maire de Paris n'a pas de pouvoir de police, donc c'est en effet le préfet de police. Aujourd'hui, on a vraiment une très bonne relation avec le préfet de police. Hein. Vraiment, je voudrais dire que bienvenue sur ce sujet-là, bon, je vais voir avec lui, on va poser la question, a vraiment une position tout à fait claire de nous. Il nous est arrivé dans un passé récent, et ce n'était pas la faute au préfet de police, de nous retrouver dans une manifestation qu'on avait faite devant l'église de Scientologie dans le 12e arrondissement, et d'être empêchés, les élus parisiens, nous avons été empêchés de passer dans une rue, alors que nous avions déclaré notre manifestation, donc c'était tout à fait légal, etc. Et les forces de police retenaient les élus pour protéger sans doute les scientologues des élus qui étaient là. ça nous a amené quand même à une petite explication avec le ministère de l'Intérieur, parce que ce qui s'est passé était absolument anormal. Mais le préfet de police, en l'occurrence, n'était pas le responsable de la difficulté qu'on a pu avoir.
Je précise, parce que j'étais à cette manifestation, que donc les scientologues avaient... je peux témoigner de ce que j'ai vu. Les scientologues avaient mobilisé en masse deux ou trois fois le nombre des personnes qui étaient principalement des élus qui manifestaient. J'ai aussi remarqué qu'un certain nombre de scientologues étaient porteurs d'un certain nombre d'appareils de communication qui, à ma connaissance, ne sont pas du domaine public et ne sont pas supposés être utilisés par des personnes privées, que j'ai signalé la chose au commissaire de police, comme si j'avais cité... Enfin, dans un violon, pour être poli. Hein. Donc, il y a quand même, oui, ce jour-là, c'était effectivement assez scandaleux. Pendant plus de trois quarts d'heure, les élus de la République ont été bloqués à l'entrée d'une rue par les forces de l'ordre, CRS en tête, et nos amis scientologues ont entretenu les meilleurs rapports du monde avec les forces locales, en l'espèce.
Alors que le 23 octobre 2000, les scientologues qui manifestaient, alors que ça leur était interdit, les scientologues sont venus manifester, mais on les a sévères quand même, hein, sur des entendus. C'est des photos.
Madame, je vous remercie d'avoir organisé et participé à cette journée. Nous avons eu connaissance de votre démarche et de votre manifestation à Paris, mais hélas, je le regrette un peu tard, puisque dans le même temps, il y avait le même sujet qui se traitait à Marseille. Donc nous étions confrontés entre les deux sujets. Donc je souhaiterais qu'à l'avenir, si c'est possible, nos actions communes ne se passent pas sur la même date, parce qu'on ne peut pas, depuis Verdun, être à Paris et à Marseille, même si Paris-Verdun, c'est moins loin, via la voie sacrée. Ce que je voulais également signaler, c'est que M. Arnaud Palisson, avec lequel vous étiez ce jour, nous le connaissons depuis fort longtemps, depuis les années 91-92, puisqu'il était professeur à la faculté de droit de Nancy et que nous travaillons à l'époque à ses côtés depuis de nombreuses années. Il a été lui-même, il s'est fait comment, testé par le centre de scientologie qui était installé à Nancy 31 Jeanne d'Arc. Et je pense que l'action de sécticide liée à un problème familial grave a probablement été à l'origine de la fermeture de ce centre. Donc on peut dire qu'en Lorraine, il n'y a plus de centre de scientologie affirmé avec une adresse. Peut-être qu'il existe dans les familles, comme ça se fait par ailleurs. Voilà. Donc, ce que je demande, c'est que les associations et toutes les actions anti-sectes corroborent leur date et pas les faire de façon dispatchée, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour répondre à tout. Voilà, c'est la demande que je formule. Voilà. Et je regrette que M. Palisson ne puisse pas s'exprimer autant qu'il le souhaite, puisque tout le monde connaît son sort. Les gens qui connaissent, évidemment.
Monsieur ici, personne après. Oui, elle. Monsieur ici, et ensuite, monsieur ici. J'ai ma S.
Bonjour. Quand on parle de la prévention, en général, ça dégénère plus ou moins rapidement. Moi, j'ai peu d'expérience par rapport à ça, mais j'ai deux coups. C'est pas comme ça. Donc j'ai deux collaboratrices qui s'y intéressent très très fort. Et finalement, ce que j'en retiens, c'est que je trouve que toute campagne de prévention, toute action de prévention devrait s'associer à ce qu'on appelle la recherche-action. Pourquoi ? Parce que dans mon expérience à moi, en tout cas dans ce que j'entends, la plupart des actions de prévention sont contre-préventives. J'explique. Les rares études qui ont été faites sur la prévention dans d'autres domaines que le phénomène sectaire ont toujours montré qu'il y avait des effets morbides en fait liés à une information stricte. Informer, ça sert à rien en matière de prévention. C'est pas ça qui est préventif. Je voudrais le dire. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut faire de la recherche-action en même temps qu'on fait de la prévention, c'est pour essayer de détecter tout ce qui est de contre-préventif. Et que finalement, l'effet inverse de l'effet désiré. Par exemple, en Belgique, on a à un moment donné le ministre de la Justice, non, ce ministre de la Justice actuellement, mais à l'époque c'était le ministre de l'Éducation, avait sorti une petite brochure qui reprenait une synthèse du rapport de l'enquête parlementaire et dans laquelle il mettait en cause un certain nombre de groupes. Il disait voilà, tel ou tel groupe, c'est une secte, tel ou tel groupe. Résultat, essayez d'imaginer ce qui se passe pour un enfant, puisque tu l'es aujourd'hui, c'est secte en France. Essayez d'imaginer ce qui se passe pour un enfant dont le professeur est informé que ses parents sont dans une secte. Alors, en général, il fait le plus d'une ségrégation de la part de ses petits camarades, en tout cas, voire du professeur. Conclusion, il y a quelque chose de l'ordre d'une prévention qui va dans le même sens que le traitement sectaire, c'est-à-dire ce que j'ai dit. Je m'a dit tantôt qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une coupure qui est accentuée par l'action qui se voudrait préventive. Ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples. On a fait donc des recherches, des rares recherches qui sont faites en matière de prévention. C'était en particulier au Canada sur la musique et je pense en Belgique sur la toxicomanie. Et donc on a vu que le fait d'encadrer la vie sexuelle, de décrire le portrait d'un abuseur, ça n'a aucun effet préventif au contraire. Au contraire. Et que un des ex-toxicomanes en classe pour raconter leur expérience, quand on a interrogé les élèves à la sortie de la classe sur ce qu'ils avaient retenu, ils avaient retenu que cet ex-toxicomane était un véritable héros. Ça, c'est pas de la prévention. Voilà.
Alors, monsieur.
Bon, bonjour. Enfin, moi, je vais intervenir. Enfin, je vais essayer d'élever un petit peu le débat. Et pas se mettre au niveau de. Excusez-moi, mais ce que je veux dire par là, je vais pas relever ce qui a été dit sur différents intervenants. Je vais simplement parler de. C'est des messieurs tout à l'heure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pour une. Moi, je suis représentant des relations publiques de l'Église Scientologie de Lyon. Donc, j'annonce la couleur. J'annonce la couleur. C'est juste. Excusez-moi. Alors, moi, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis pour un dialogue. Je suis pour un dialogue entre un dialogue, je veux dire, au niveau des problèmes des sectes. C'est-à-dire que, quand je dis dialogue, ça veut dire que. Ce que je veux dire, c'est que c'est une acquisition, je veux dire, ça n'avance pas. Moi, je pense que ce qui peut avancer les choses, c'est un tentative de dialogue entre les différents. Ici, il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup de gens d'officiels. Et moi, je pense que l'attitude, c'est plutôt d'avoir un dialogue avec ces mouvements. Par exemple, on parle des enfants, on avait parlé des enfants tout à l'heure. Moi, je pense que, moi, j'ai rencontré énormément d'enfants qui appartiennent à différents groupes, et je peux vous dire que ce sont des enfants qui sont épanouis. Il y a beaucoup de personnes. Alors, ce que je veux dire par là, ces mouvements existent au niveau administratif. C'est-à-dire, ce sont des associations 1901 qui ont un statut, et à ce titre-là, elles peuvent donc, elles ont une existence. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de comprendre. Non, mais la question, attends, c'est que.
Posez votre question, on ne va pas faire un débat dans la salle. Hein, alors.
La question simplement, c'est que ce sont des mouvements qui existent avec un statut de 1901. Ce sont donc des qui sont légalement constitués. Et à ce titre-là, étant donné qu'elles existent, qu'elles ont une existence légale, elles ont le droit, comme toute association, d'avoir une vie associative.
Mais quand tu commets des actes
illégaux, monsieur,
avec toi,
à partir du moment où il y a un respect des lois, un respect des règle. À partir du moment où la démocratie, c'est quoi? C'est un débat entre différents courants d'idées, même si on n'est pas d'accord avec l'adversaire. La démocratie, c'est ça. Si on est tous d'accord, il n'y a pas de débat. Or, moi, ce qui me surprend, c'est que c'est une attaque en règle, que ce soit médiatique, donc le débat il est illégal. Et lorsqu'on essaie de prendre la parole, ou même dans les médias, ou de faire un article de l'émission, vous n'avez pas du tout la possibilité. Donc, moi, je pense qu'il faut établir, instaurer un dialogue, et à partir de ce dialogue, échanger, trouver des points d'accord.
Très bien. Alors, attendez. Il y a ce monsieur qui s'est levé la première fois. Juste après, voilà.
Je voudrais revenir à la question de ce matin, à laquelle on n'a pas répondu. C'est la première question posée. C'est tout simplement lorsque les cours de justice françaises donnent la garde des enfants aux parents qui n'est pas adepte d'une secte. Donc c'était une question un petit peu au nom de la crise que je posais, qui est les préoccupations européennes. Donc il s'avère que en Cour européenne des droits de l'homme, les enfants sont parfois donnés aux parents qui sont adeptes. Alors on aimerait savoir pourquoi il y a ce déphasage entre les deux types de juridiction. Voilà, la FECRIS est très préoccupée par ce genre de problème.
Alors on va déjà répondre à cette question. Monsieur Roulet, vous pouvez intervenir sur ce domaine. Parce que je sais qu'on n'est pas fait du tout.
Sur cette question précisément, c'est difficile. Vous avez des juridictions qui sont souveraines. Chaque juridiction juge sur la base des textes qu'elle est censée appliquer. La juridiction française juge sur les textes français. Elle peut considérer qu'il y a un risque, un danger pour l'enfant et par conséquent attribuer la garde à tel ou tel parent. Si le parent qui n'a pas obtenu la garde se pourvoit devant une cour européenne au motif que l'État français n'aurait pas respecté telle ou telle liberté fondamentale et que ce motif est jugé recevable parce que le dossier aurait été mal ficelé, parce que l'avocat n'aura pas su utiliser les éléments imprimés, parce que le parent adepte d'une organisation sectaire aura bénéficié du soutien d'avocats extrêmement pointus appartenant à cette organisation parce que cela permet ensuite de faire acquérir jurisprudence et de faire école, et bien à ce moment-là, effectivement, on a toutes les chances de perdre. Vous savez qu'en justice, pour gagner, il ne suffit pas d'avoir raison, de penser d'avoir raison. En justice, pour gagner, il faut présenter un dossier qui tient la route et qui permet au juge, en toute honnêteté, de rendre le jugement, de rendre la justice sur le fondement des lois sur lesquelles il se travaille. Il y a parfois des décalages entre la loi française et la loi européenne, et nous voyons un certain nombre de décisions qui nous surprennent. J'aimerais vous en citer une autre qui vous a surpris. Une cour française a accordé précisément à l'Église de Scientologie, dont nous parlions tout à l'heure, des indemnités pour n'avoir pas pu être jugé dans des délais normaux après qu'un dossier ait disparu d'une juridiction française. Cela peut paraître scandaleux quand on le voit d'extérieur, mais on doit s'interdire de porter un jugement sur une décision de justice dès lors que cette décision de justice est fondée sur une application rigoureuse des textes. La démocratie est à ce prix, monsieur.
Très bien.